Bien, bonjour à toutes et à tous. Il est 9h30, passé de quelques minutes. On est à peu près à l'heure. Donc, je vous propose que nous commencions cette journée. Je vous souhaite la bienvenue à Lyon, et en particulier dans ce quartier de la Part-Dieu, dont je pense vous avez pu apprécier en arrivant le caractère paisible et accueillant. Et encore, vous n'avez rien vu, puisque d'ici quelques années, on nous promet que la nature aura envahi le quartier. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la nature n'est pas rancunière. Revenez dans quelques années, vous verrez ce quartier encore plus magnifié qu'il ne l'est aujourd'hui. Et vous mesurerez, je pense, comme nous, la chance que nous avons de travailler dans un tel environnement. Je vous souhaite la bienvenue également au sein de la bibliothèque de la Part-Dieu, qui fête cette année ses 50 ans, puisqu'elle a ouvert en décembre 1972. Un bâtiment construit à l'époque contemporaine tient encore debout 50 ans après sa construction. C'est quelque chose de tout à fait notable, hein, c'est même presque une forme de prodige. Le Centre Pompidou n'est pas sûr de pouvoir en dire autant dans quelques années. Et donc, il nous a paru important de célébrer ce cinquantenaire, cet anniversaire, de marquer le coup, pour rappeler d'une part l'importance que ce bâtiment a en tant que jalon dans l'histoire des bibliothèques françaises. Ce gros vaisseau de 28 000 mètres carrés est encore aujourd'hui la plus importante bibliothèque française en dehors de Paris, par sa taille en tout cas. C'est aussi un bâtiment qui est un des piliers de la vie culturelle lyonnaise, hein, puisque nous recevons ici à peu près 1 million de visiteurs chaque année. À peu près 20% de la population lyonnaise est inscrite et on estime qu'à peu près 35% des Lyonnais visitent nos bibliothèques au moins une fois par an. Nous sommes un acteur important de la vie culturelle lyonnaise, mais comme toutes les bibliothèques dans toutes les villes. Hein, ici, la bibliothèque représente 20% du budget de la culture, qui lui-même représente 18% du budget de la ville. La ville de Lyon consacre une part importante de ses ressources à sa politique de lecture publique, et c'est bien de pouvoir aussi le souligner dans des occasions comme ces anniversaires. Pour l'occasion, nous avons prévu un programme de festivités qui figure dans la pochette qui vous a été remise. Si vous avez quelques instants aujourd'hui, allez jeter un coup d'œil au quatrième étage de la bibliothèque, dans un espace d'exposition secondaire que nous avons. Vous pourrez découvrir des travaux d'étudiants de l'école Émile Cohl, école lyonnaise réputée dans le domaine de l'illustration d'images animées, à qui nous avons laissé carte blanche pour exprimer ce que la bibliothèque représente pour eux, pour elles et pour eux. Si vous êtes encore à Lyon le 3 décembre, nous vous proposons samedi 3 décembre une journée festive avec un riche programme d'activités. Si vous passez à Lyon entre le 8 décembre et la fin du mois de mars, vous pourrez profiter des illuminations du hall Vivier Merle par lequel vous êtes arrivé, que nous allons lancer dans le cadre de la Fête des Lumières, dont j'ai appris récemment que c'était le quatrième événement mondial le plus fréquenté en plein air, juste après la Fête de la bière à Munich. Le premier étant le Carnaval de Rio. C'est évidemment un grand rendez-vous lyonnais et on est très heureux d'y participer. Et il nous a paru important qu'au sein de cette célébration du cinquantenaire du bâtiment, on ait également un temps de réflexion professionnelle et un temps un peu plus prospectif à proposer. Alors, il y a 10 ans, pour le 40e anniversaire, il y a eu déjà nos prédécesseurs avaient organisé une journée consacrée plutôt à l'architecture des bibliothèques européennes, pour faire écho aussi au projet de requalification de ce bâtiment qui a été initié à peu près à cette époque-là et lancé à cette époque-là, qui avance, qui ne recule pas en tout cas, puisque la rénovation du silo de la bibliothèque, donc la tour de 17 étages qui contient nos collections patrimoniales, s'achève après plusieurs années de travaux. C'est extérieurement pas très visible, mais intérieurement très spectaculaire, et c'était déjà une première étape importante. Et puis donc, nous travaillons à maintenant la requalification des espaces internes et des espaces publics qui figurent toujours parmi les projets culturels importants de notre exécutif. Et donc, nous avons l'architecture, ça nous cause beaucoup de soucis au quotidien, hein, notamment dans ce bâtiment et surtout en période de crise énergétique. Donc, on a souhaité aborder un autre sujet et la question des droits culturels, c'est un petit peu imposé à nous, ou en tout cas, on a souhaité avoir un focus particulier sur ce point-là, pour plusieurs raisons, au moins trois, que je vais évoquer brièvement. La première, c'est que cette notion de droit culturel se répand depuis quelques années dans le corpus législatif français. Hein, elle est apparue, vous le savez, dans la loi NOTRe de 2015, puis dans la loi sur la création, la liberté de création, l'architecture et le patrimoine de 2016, où il est indiqué que la responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l'État dans le respect des droits culturels. Et puis enfin, plus récemment, et ça nous concerne plus directement en bibliothèque, la fameuse loi tant attendue du 21 décembre 2021 sur les bibliothèques et le développement de la lecture publique, dite loi Robert, indique dans son article 1 que par leur action de médiation, les bibliothèques garantissent la participation et la diversification des publics et l'exercice de leurs droits culturels. Donc cette apparition dans la législation française de cette notion de droit culturel, déjà en soi, est une incitation à réfléchir à cette question. À Lyon, le maire Grégory Doucet a fait de l'affirmation des droits culturels l'une de ses promesses de campagne en 2020, et donc a souhaité que la politique culturelle de la ville soit réinterrogée et pensée désormais à partir de cette notion de droit culturel. Donc, pour concrétiser un petit peu cette ambition, cette promesse, trois journées d'échange sur les droits culturels en action ont été organisées récemment par la ville, à l'hôtel de ville, en octobre dernier. Et à cette occasion, la nouvelle charte de coopération culturelle pour la période 2023-2027 a été signée par 37 structures culturelles lyonnaises, dont la bibliothèque, qui ont participé à l'élaboration de cette charte. Alors, la charte de coopération culturelle, elle existe à Lyon depuis 2004. Elle avait été lancée par Patrice Béguin, qui était à l'époque adjoint à la culture. Et c'est un outil structurant, ça se veut un outil structurant. Et donc, en particulier, cette nouvelle charte intègre vraiment la question des droits culturels de manière très explicite, et elle ambitionne d'être, je le cite, le levier d'un développement territorial solidaire et l'outil de mise en œuvre des droits culturels. Donc, elle contient un certain nombre d'engagements répartis en trois grands axes, des engagements donc, que les signataires de la charte s'engagent à essayer de respecter et de mettre en œuvre. Donc, le premier axe, les personnes. Donc, il s'agit là de favoriser la rencontre, la mixité, le dialogue interculturel entre les habitants, à lutter contre les discriminations, ce qui est bien le moins, et puis apporter une attention aux différentes catégories de personnes, quel que soit leur âge, leur degré de familiarité avec la culture. Deuxième axe, les territoires. Donc, il s'agit d'intervenir sur tous les territoires de la ville, en particulier les quartiers dits prioritaires. Ça, c'est une dimension que les bibliothèques ont déjà intégrée depuis longtemps dans leur action. Et puis, ce sont fondamentalement des équipements de proximité. Donc, il y a une habitude ancienne. Et puis, de par notre fonctionnement et notre organisation, on est naturellement familiarisé avec ces questions. Et on est présent, évidemment, plus fortement dans le territoire que d'autres institutions, comme par exemple l'Opéra ou des musées. Même s'ils s'en emparent, et on évoquera aujourd'hui dans cette journée la question un exemple de musée. Je salue d'ailleurs mon collègue et ami Xavier de Lasselle, qui interviendra tout à l'heure et qui est directeur du musée Cadagne. Et puis, dernier axe, les coopérations. Donc, la charte entend favoriser le travail en commun et les coopérations entre les signataires de la charte, mais aussi avec toutes les autres structures partenaires. À la bibliothèque, donc troisième niveau, on s'est également emparé de cette notion de droit culturel, puisque nous avons élaboré récemment un nouveau projet d'établissement qui a été présenté en conseil municipal au mois de mai dernier. Projet d'établissement que vous trouvez, pour ceux qui seraient intéressés ou qui seraient insomniaques, en ligne sur le site de la bibliothèque. Et donc, ce projet, bien sûr, définit les grands axes et les grandes priorités de la bibliothèque pour le mandat en cours, et en particulier explicite la façon dont la bibliothèque entend mettre en œuvre les grandes orientations municipales définies dans un plan de mandat en début de mandature, en particulier la question de la transition écologique, bien sûr, hein, qui nous préoccupe tous aujourd'hui, et encore plus dans une municipalité comme celle de Lyon, qui a fait de la transition écologique sa principale priorité, mais aussi la question de l'inclusion sociale, la question de la participation citoyenne, la question de la ville à hauteur d'enfant, et donc la notion de droit culturel qu'on s'est engagé à mettre en œuvre et à essayer de concrétiser plus fortement. Et donc, il nous a paru intéressant justement non seulement de réfléchir à cette notion, mais de ne pas réfléchir seul, isolé, refermé sur nous-mêmes, et d'essayer d'élargir la réflexion à la communauté professionnelle. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé à la BPI de co-organiser et de concevoir ensemble cette journée d'études à laquelle vous assistez aujourd'hui, et qui j'en suis très heureux, a déjà un succès de fréquentation. La BPI, nous coopérons très régulièrement avec elle. Nous sommes membres de son conseil de coopération, et donc c'est évidemment pour nous un apport extrêmement important, et je me félicite de cette coopération. Et donc aujourd'hui, on souhaite partager un peu certaines de nos interrogations, puisque bon, la notion de droit culturel, elle pose un certain nombre de questions concrètes, hein. Par exemple, qu'est-ce que cette notion apporte par rapport au référentiel précédent auquel nous référions habituellement? Par exemple, le préambule de la Constitution de 1946, hein, qui stipule déjà que la nation garantit l'égal accès de l'enfant, de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre le droit à la culture et puis les droits culturels? C'est une première interrogation. Comment passer de la notion d'usager à la notion de personne? Autre interrogation, comment faire évoluer nos pratiques, nos politiques culturelles qui sont plutôt basées sur l'offre pour mieux prendre en compte les demandes des individus? Comment faire évoluer nos pratiques d'accueil, de médiation, nos politiques documentaires au regard des droits culturels? Comment est-ce qu'il faut repenser la notion de public empêché? Voilà quelques-unes des multiples interrogations que pose concrètement cette notion de droit culturel si on veut essayer de l'appliquer concrètement à notre action et à nos activités et à notre fonctionnement. Et donc, c'est un peu toutes ces interrogations qu'on vous propose de partager aujourd'hui, avec une double ambition, celle d'une part de contribuer à une meilleure compréhension de cette notion de droit culturel, qui n'est peut-être pas tout à fait familière à chacun, et puis réfléchir collectivement donc à sa traduction concrète dans nos établissements, dans nos politiques de lecture publique et dans nos pratiques professionnelles. Pour conclure, je voudrais adresser un certain nombre de remerciements, comme c'est d'usage. Donc ici, au sein de la bibliothèque, je voudrais remercier particulièrement de mes collègues Clotilde Pardet, responsable des départements de la Part-Dieu, et Étienne Makiewicz, responsable de l'action culturelle et de la communication, qui étaient les chevilles ouvrières de l'organisation de cette journée. Remercier bien évidemment la BPI, sa directrice Christine Carrier, sa directrice adjointe Annie Brigand, à qui je vais laisser la parole dans quelques instants, et puis l'équipe de la délégation à la coopération nationale et internationale, Éléonore Clavreul, Jean-Baptiste Weissmann, et puis leurs collègues. Remercier aussi l'ARAL, qui nous a apporté son expertise pour la conception de cette journée. Je salue son directeur Laurent Bonzon, qui est parmi nous aujourd'hui. Remercier évidemment tous les participants de cette journée, remercier en particulier la direction des affaires culturelles de la ville et notamment Christine Tollet et son service, la mission coopération culturelle, qui est en charge de la coordination de l'animation de la charte de coopération culturelle et qui est très engagée sur ces notions-là et qui nous a également apporté son précieux concours. Et puis aussi tous les collègues de la Bibliothèque de Lyon qui ont accepté de présenter différents cas concrets qui seront examinés dans le courant de cette journée. Voilà, merci à vous. Je souhaite des échanges fructueux et je souhaite que vous repartiez de cette journée avec peut-être un peu plus de conviction et de satisfaction. Bonne journée à vous.
Merci Nicolas. Alors tu nous as dit déjà beaucoup de choses, donc je vais être assez bref, mais je voulais évidemment retourner les remerciements à la Bibliothèque municipale de Lyon et en particulier à toi Nicolas, à ton équipe, à Clotilde, à Étienne, pour avoir organisé dans un bel esprit de coopération cette journée d'études. Et puis, en profiter aussi pour souhaiter un bon anniversaire, effectivement, à la Bibliothèque Lapardieu, qui nous accueille aujourd'hui. 50 ans, oui, 50 ans, c'est un bel âge. Enfin, il y a plus ancien, hein, pour une bibliothèque, mais c'est un très bel âge. Et on est un peu jaloux, effectivement, nous, la BPI, parce qu'on a 50 ans de moins, on est vos cadets. J'espère qu'en tout cas, dans 50 ans, nous serons encore debout, nous et vous. On ne sera pas là pour le voir. On va, nous aussi, alors c'est un de nos points communs, rentrer en travaux, puisque le Centre Pompidou doit fermer ses portes, a priori, en 2025, pour que quelques années de grands travaux et la BPI en profitera également pour se rénover. Donc on a effectivement BPI et BML beaucoup de points communs, donc outre le fait d'être presque cinquantenaire pour notre part et déjà pour vous, outre le fait de rentrer en travaux, outre le fait d'avoir été dirigé d'ailleurs un temps par le même conservateur bien connu de la profession, voilà. Et puis bon, bien sûr, nous partageons en tant que bibliothèque publique beaucoup de valeurs, des valeurs qui, alors je vais citer un autre texte de référence qui est le manifeste des bibliothèques publiques de l'IFLA UNESCO, voilà, sont vraiment résumés dans ce manifeste avec des phrases comme les services de la bibliothèque publique sont fournis sur la base de l'égalité d'accès pour tous, indépendamment de l'âge, de l'origine ethnique, du sexe, de la religion, de la nationalité, de la langue, du statut social et de toute autre caractéristique. Manifeste qui, comme vous le savez d'ailleurs, vient d'être, j'en profite pour le dire, à propos d'anniversaire, à l'occasion de son 25e anniversaire, vient d'être mis à jour et adopté lors du dernier congrès de l'IFLA en 2022. Ce manifeste pointe également l'importance d'offrir des possibilités de développement créatif personnel, de stimuler l'imagination, la créativité, la curiosité et l'empathie, et d'encourager le dialogue interculturel, favoriser la diversité culturelle. Le manifeste est ainsi parcouru de la préoccupation de préserver la multiplicité des expressions de cultures variées. Et donc, on voit bien, effectivement, qu'entre ce texte de référence et la déclaration de Fribourg sur les droits culturels, il y a une parenté. Et bien sûr, la question qui vient derrière, c'est est-ce que des bibliothèques comme les nôtres, mais tu l'as déjà dit, Nicolas, ne contribuent-elles pas déjà, effectivement, à l'exercice des droits culturels de leurs usagers, voire des habitants du territoire ? Bref, serions-nous des Monsieur Jourdain des droits culturels que nous mettrions déjà en œuvre et depuis longtemps sans le savoir ? Les droits culturels seraient donc une nouvelle grille de lecture et de valorisation de nos actions, de ce que nous faisons déjà. Mais je pense qu'on peut aller effectivement beaucoup plus loin et on va certainement le faire au cours de cette journée pour dire que, pour reprendre un terme utilisé dans la deuxième intervention, je crois, du programme, les droits culturels apparaissent comme vraiment un nouveau paradigme qui permet de repenser, de refonder les politiques de la culture et les politiques de la lecture publique en particulier. Donc voilà, c'est bien l'objet de cette journée qui nous réunit aujourd'hui, des échanges que viendront éclairer des chercheurs, des professionnels de la culture, que je ne vais pas citer, mais que je remercie vivement au nom de la BPI et de la Bibliothèque municipale de Lyon de nous accompagner dans l'appropriation de ces notions complexes. Et puis, comme il n'est pas de meilleure manière pour s'approprier les choses que de passer par la pratique, je voudrais aussi saluer ici le soutien de l'Agence Auvergne-Rhône-Alpes Livres et Lecture et le groupe Pratique en Chantier, porté par Réseau 21, qui va animer les ateliers de cet après-midi. Je salue aussi l'éclairage international que va nous apporter Céline Martin, avec l'exemple de nos voisins, amis, collègues belges, qui ont intégré eux aussi dans leur pratique professionnelle la question des droits culturels. Voilà, mais tu l'as déjà fait, Nicolas, mais tous nos remerciements également à Xavier Delasseille et puis à Jérôme Trio, hein, qui conduiront leur groupe cet après-midi dans leurs établissements. Alors voilà, pour terminer peut-être rapidement, à propos de partage d'expériences, de valorisation des initiatives des établissements sur leur territoire, j'en profite pour vous inciter à rendre visite au site BPI Pro, hein, que vous connaissez sans doute déjà, sur lequel vous trouvez beaucoup de choses, des programmes de journées d'études comme aujourd'hui, mais aussi des captations de ces journées, parfois même en direct, je pense au format BiblioGrill que vous connaissez peut-être, format court centré sur des sujets d'actualité. Ce site est animé par la BPI, mais il est aussi enrichi par tous les contenus que vous pouvez apporter. Je cite notamment le format, le nouveau format de fiches pratiques dans lequel vous pouvez partager un projet, une expérience, et ce qui facilite ensuite la mise en contact entre professionnels qui ont les mêmes préoccupations. Voilà. Et puis alors pour terminer, un petit clin d'œil à propos d'anniversaire. Mes petits camarades du service coopération de la BPI m'ont soufflé que c'est un 24 novembre en 1859 que Charles Darwin a publié son traité de l'origine des espèces, fondateur pour la théorie de l'évolution. Et que c'est aussi un 24 novembre, mais cette fois-ci en 1974, qu'une équipe de paléontologues internationales, dont faisait d'ailleurs partie Yves Coppens, récemment disparu, ont découvert le fossile d'une lointaine ancêtre de l'espèce australopithèque. Vous le savez sans doute, l'équipe était fan des Beatles, d'où le nom de Lucy, In the Sky with Diamonds, dont on a baptisé le squelette. L'histoire ne dit pas d'ailleurs s'il n'y a pas une autre raison moins culturelle et moins avouable qui a présidé au choix de ce nom, mais je vous laisse juger. En tout cas, nul doute que ce 24 novembre 2022 rimera avec culture et découverte. Et il me reste donc à vous souhaiter à tous et à toutes, ou plutôt à toutes et à tous, pardon, une belle journée d'études.